La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
Je tiens même pas le volant.
Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.
Bonjour chers auditeurs et auditrices du jour. Ce matin, nous vous invitons dans l'émission Echo qui met en avant les artistes de la région Occitanie. On va parler rock, on va parler même déluge rock psychédélique ce matin avec le groupe Carcara. Garçon sur le plateau de Radio Néo.
Salut.
Alors, vous n'êtes pas trop réveillé ce matin, c'est un peu ma faute parce que vous étiez quand même en concert hier soir en première partie de Slift. J'imagine que vous n'êtes pas encore redescendu totalement, ni du tout d'ailleurs, de ce concert-là.
Non, oui, effectivement, bon, c'est un peu tôt, mais c'était une soirée sacrément historique pour nous. Et bah, du coup, bah, voilà, bah, on est là, hein. On est là, et ça nous fait plaisir.
Pas beaucoup dormi, mais on est là, on est content.
On est là.
Comment vous l'avez vécu ce concert ? Donc vous avez fait la première partie de Slift, les gars vous les connaissez bien, hein, évidemment. Ces artistes toulousains, on les connaît bien aussi sur Radio Néo. C'était comment, donc, avec ce public que vous connaissez aussi, hein ? J'imagine que vous aviez tout un tas de copains dans la salle.
Bah, c'était assez intense. C'était vraiment plein. On a fait un bikini vraiment blindé, sold out. Donc il devait avoir entre 1005 et 1007. Je me rappelle plus de la jauge. Donc ouais, c'était vraiment intense. Une salle bondée et on était vraiment fiers de pouvoir faire cette salle-là avec deux groupes toulousains pur jus et montrer un peu ça devant le public. Et le public était vraiment au rendez-vous et ça nous a fait vraiment vraiment chaud au cœur, vraiment.
Et puis on est amis avec Slift, mais on n'avait jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Et pour une première fois bikini, quand même, c'est royal, quoi. Voilà.
J'imaginais pas que vous aviez jamais joué avec eux, en fait.
Eh ben non.
C'est la première fois, mais c'est pas la dernière. Et on va le savoir bientôt, vous allez nous le dire. Alors, on est là pour parler aussi, quand même, et surtout, de votre sortie d'album. Vous en êtes au troisième. Il y en avait en 2019, il y en avait en 2020. Là, on est en 2024. Donc, c'est la sortie. On a écouté un petit extrait d'Entropia en début d'émission. Cette sortie, en fait, vous l'avez fait il y a quelques temps déjà avec un clip. Un clip un peu en dessin animé.
Clip d'animation.
Ouais,
clip d'animation, ouais. C'est un Arturo Baston qui nous l'avait fait, qui avait notamment travaillé avec Ossies, Death Valley Girls, il avait fait A Place to Bury Strangers aussi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une patte à lui. On lui avait envoyé le titre d'Entropia avec l'histoire d'Entropia et on lui a dit écoute, fais-nous quelque chose, fais vraiment quelque chose à ta sauce. Et il nous a fait ce clip-là, on était super contents.
Ce clip-là, c'est un personnage qu'on suit, qui a l'air d'être un peu guidé par un œil, je dirais. Il a l'air d'être un peu paumé au départ, on ne sait pas trop ce qui va advenir. Et c'est un peu l'histoire de votre album, ça, ce personnage qui est central, en fait, et qui ne sait pas trop où il est, dans quel monde il est.
Ouais, non, c'est bien ça, en fait. On a voulu faire un album concept, comme on faisait, en fait, dans les années 70, qui se fait de moins en moins. Et on a voulu que chaque titre soit un chapitre d'une histoire, en fait, qui décrit un personnage dans un monde apocalyptique où les hommes ont épuisé toutes les ressources, où du coup ils se retrouvent à se battre pour les derniers litres d'eau, les derniers fruits et les dernières racines. Et on suit ce personnage, ouais, qui évolue et qui en arrive à essayer de rechercher un lieu utopique qui s'appelle Entropia et qui représente, en fait, le paradis perdu.
C'est pas très très joyeux, en fait, cet non. album au final. Hein. Cet non. album, il s'appelle All Is Dust, il faut qu'on le dise à nos auditeurs et auditrices qui entendent là et qui nous écoutent. Donc All Is Dust, c'est tout est poussière, tout n'est que poussière finalement. Est-ce que c'est un peu de chacun d'entre vous l'histoire de ce personnage dans cet album ?
Oui.
Oui.
Oui, oui. Totalement. Cet album, c'est une épopée... qui retrace du coup les événements de ce personnage qui vit pas mal de choses très dures. Et je pense que bon, on y a tous mis un peu notre vécu aussi dans cet album-là. La difficulté d'avancer, la difficulté de trouver un objectif et de de se fier à cet, objectif-là et de rester toujours dans son chemin et de se perdre parfois, mais du coup d'avoir besoin d'être guidé plus ou moins. Et en fait, on est plus ou moins les seuls à pouvoir se guider nous-mêmes, quoi. Et c'est un peu le clip, Anthropia, en fait. C'est lui, en fait, qui se guide.
Ouais, ce All Is Dust-là, c'est... Bon, on a mélangé un peu cette constatation de l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est anxiogène, qui est pas forcément toujours rassurant quand on essaie de voir un peu vers l'avenir. Et on a pris cette partie-là et qu'on a mélangé aussi avec notre ressenti personnel, notre vécu aussi, par rapport au fait tout simplement d'être musicien, d'un style de musique qui est pas mainstream et qui est dur, qui est très très dur. Et du coup, on a mélangé un peu tout ça pour arriver à ce All Is Dust, en fait, en mettant vraiment nos tripes sur la table. Et en se disant, ok, qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'exprimer réellement avec toute notre rage, désespoir, quête, un peu tout ça mélangé et qui s'exprimait vraiment dans cet album, vraiment titre par titre, comme vraiment une histoire. Une histoire en plusieurs chapitres, une épopée pour arriver à un final.
Sur la scène aussi, quand on vous voit jouer, en fait, vous amenez peu à peu le public à une espèce de transe. À quel moment vous vous dites, ça y est, on les a chopés, ils sont partis?
Ah ouais, ça c'est pas évident comme question. En fait, ça dépend vraiment des conditions. Et là, par exemple, hier soir, on a joué des morceaux que les gens connaissaient pas. Et c'est très intéressant de voir comment ils réagissent, parce qu'on sait... Bah voilà, si ça bouge, si ça pogote, bah on sait que voilà, le morceau il marche, il est catchy, quoi. Et après un concert, c'est un peu à chaque fois un événement unique, et des fois ça prend, des fois ça prend pas, et ça tient pas forcément à nous aussi. Si le son est dégueulasse, bah les gens ils vont pas rentrer dedans, quoi.
Au bikini, il est rarement dégueulasse.
Non, il était très bien.
Non,
mais
là pour le coup, on peut pas s'en plaindre, ouais. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui se ressent, dans tous les cas. À un moment, il y a eu une émulsion entre le public et du coup et les artistes, et cette émulsion-là, elle crée un partage, et c'est un truc qui se ressent. Et ça, voilà, c'est chacun donne ce qu'il peut, et on partage tout ça, quoi.
Ouais, vraiment cette connexion-là qu'on sent vraiment en tant que musicien, où on est sur scène et puis d'un coup on se dit c'est bon, les gens ils sont vraiment vraiment avec nous. On a l'impression de qu'il y a vraiment une connexion qui se fait avec les gens. C'est pas juste on joue, en fait, on est tous en train de presque de jouer ensemble, en fait. Et nous on fait la musique et les gens dansent devant, et on a l'impression presque de qu'ils font un peu partie de la scène aussi, comme s'ils étaient avec nous sur scène. Et ces moments là ils sont vraiment magiques, ils sont vraiment précieux. Et il y a des lives où c'est ça part tout de suite, d'autres où ça met un peu plus de temps, etc. C'est vraiment chaque live, comme disait Max, chaque live est un événement unique.
C'est beau. Vous avez fait des centaines de concerts en France, en Europe. Enfin, voilà, vous n'êtes pas des jeunes premiers en termes de concerts, on va dire. Là, vous êtes donc avec Sleeves, vous avez joué hier, mais vous allez jouer aussi en tournée avec eux. Quel est le gros point commun que vous avez avec ce groupe-là, toulousain aussi? Et quelle est la plus grande différence?
Point commun, j'ai envie de dire, jouer fort.
Je pense que le point commun, c'est qu'on a autant Sleeves que nous, on a notre univers à nous. Et du coup, on s'amuse à dire que Sleeves, c'est un peu Odyssée de l'espace, et nous, c'est un peu Mad Max. Et du coup, on a plus ou moins une trame scénaristique, entre guillemets, de l'album, de comment on voit la musique et tout ça. Et comment on emmène du coup le public et les auditeurs dans notre monde à nous. Donc ça, je pense que c'est le point commun.
Ouais. Mais après, en différence, je dirais, en concert en tout cas, Sleeves est vraiment hypnotique. Il y a un truc comme ça où on est un peu stupéfait. Et nous, c'est plus dansant, on est plus là pour s'éclater. Et voilà.
C'est un peu plus la teuf, ouais, voilà.
Mais ça peut être la teuf sur Steve aussi.
Oui, oui, carrément. Et non, je pense que c'est ça. Le point commun, c'est que, comme a dit Hugo, c'est qu'on a, on a tous les deux créé un univers c'est-à-dire, visuel et presque onographique, de, où on essaie vraiment d'emmener notre public dans cet univers-là. C'est vraiment, vraiment le point commun. Et la différence, je pense tout simplement, c'est que ce n'est pas juste le même univers. C'est, ouais. Voilà, c'est, y en a un, c'est dans l'espace, et l'autre, c'est dans le désert post-apocalyptique. Mais les deux, en tout cas, c'est une histoire riche et dense dans laquelle on veut emmener le public avec nous.
Cet album que vous venez de sortir, All Is Dust, il a été composé par vous, évidemment, mais il a été aussi arrangé par Olivier Cussat, qui est aussi toulousain, qui fait notamment des musiques de films. Qu'est-ce qu'il a apporté à votre album, Olivier ?
Déjà un million de synthétiseurs, c'est la plus grande collection de synthétiseurs de France, je pense, et puis une approche cinématographique, on va dire, vraiment dans la composition, c'est quelqu'un qui travaille, qui écrit la musique, nous on n'écrit pas la musique, donc forcément ça a amené une couche en plus que nous on n'a pas forcément accès, voilà.
C'est quelque chose qui se ressent, en fait, vu qu'il a l'habitude de composer pour de l'animation ou des films ou avec des orchestres, quoi. C'est quelque chose qui se ressent.
Il a notamment fait Les As de la Jungle.
Oui, c'est ça.
Un et deux.
Un et deux, très important.
Mais oui, ça se ressent parce que du coup, il apporte une continuité, en fait, à cet album-là. Tout ce qui est autour du son, tout ce qui est... Il rajoute de la crédibilité à l'univers avec, du coup, avec ses synthés. Avec ses idées aussi, enfin voilà, il propose plein de choses, il fait partie intégrale du groupe pendant qu'il travaille avec nous, quoi, et pour tout le reste aussi, de toute façon.
Vous avez aussi rajouté dans cet album des trompettes et d'autres instruments. Il y a du didgeridoo, alors ça c'est vous qui le faites.
Pas dans cet album.
Dans les deux premiers, pas dans celui-là.
Ah, dommage. Enfin, dommage ou pas, hein, d'ailleurs.
Ça dépend des goûts.
Ce didgeridoo, c'est quand même un instrument hyper spécial. Vous avez été initié à cet instrument par quelqu'un en particulier?
C'est moi, du coup, qui avait commencé cet instrument-là, que j'ai découvert complètement par hasard, en fait, dans la rue, par quelqu'un qui en jouait dans la rue. Et c'était à une époque où où je vivais à Montpellier. Je venais d'arriver en France, je ne vivais pas en France. Et j'étais arrivé.
Tu vivais où?
Je vivais en Tunisie, jusqu'à mes 18 ans. Et donc je devais avoir 18 ans et demi. Non, et je marchais dans les rues de Montpellier et j'entends comme un bourdon, un son que j'avais... Rarement entendu ailleurs. Et je m'avance et il y avait un gars qui jouait dans la rue du didgeridoo. Je me suis dit, ouais, ce son est incroyable. Et il vendait des didgeridoo basiques en bambou à 20 euros. Et je me suis dit, vas-y, je vais en acheter un et je vais essayer, je vais commencer. Et j'avais commencé à en faire comme ça, petit à petit. Voilà, exactement, passer des journées. Et après, je me suis dit, bah, en fait, je fais de la guitare.
Je fais bien
en
le
même
didgeridoo
temps.
À 20 euros. <balles. rire>
Et après, je me suis dit, je fais de la guitare en même temps, donc pourquoi pas mélanger les deux. Et après, je me dis, je mets des effets sur ma guitare, pourquoi pas mettre des effets sur le didgeridoo. Et après, ça s'est construit un peu comme ça, petit à petit. Ouais.
Et de Tunisie, toi qui as passé 18 ans là-bas, tu n'as pas ramené des instruments ou une appétence spéciale pour des sons particuliers?
Si, complètement, l'appétence pour la musique orientale, la manière de jouer. Je joue un peu ma guitare comme je jouerais d'un oud, en fait, avec toujours une note continue, en fait. Et c'est vraiment l'influence qui est venue de là-bas, c'est ça, c'est cette appétence pour la musique orientale et une manière de jouer un peu particulière, qui se ressent avec une guitare qui sonne déjà un peu treblé, un peu aigu presque, parfois comme un sitar, parfois comme un oud. Ça vient de là-bas.
Tout à l'heure de trompette, de saxophone aussi vite fait dans cet album, vous avez fait des collaborations avec d'autres Toulousains encore.
Oui, on a du coup le saxophoniste Jérôme
Billet-Velot,
voilà, et Simon Barrière du coup à la trompette pour cet album. Ça part de tout simplement, ça part d'une idée entre guillemets folle ou dans les répétitions. Ah ouais, ça serait quand même bien. Ça nous faisait penser à, je sais pas, à d'autres musiques, d'autres influences, quoi. s'est dit, bah, pourquoi pas, vas-y, hein, on va demander. Et du coup, bah, on a demandé, ça l'a fait. Et on s'est dit, bon, bah, voilà, bah, on le fait, quoi. Et d'ailleurs, Jérôme est venu pour le concert au Bikini. Et bah, c'était aussi une première pour nous d'avoir un saxophoniste avec nous sur scène. Et bah, ouais, ça a fait son petit effet. Ouais. C'est,
Vous allez le reprendre, alors?
Oui, on va le reprendre.
On te reprend, Jérôme.
Votre album Hollies Dust, qui est sorti donc le 22 mars, vendredi dernier, il est sorti sur 3 labels cette fois-ci. Vous aviez déjà bossé avec Stolen Body Records et vous n'en avez pas pour autant perdu votre corps ou votre âme, si je puis m'exprimer ici, vu le nom de ce label. Mais là, vous êtes sorti sur 3 labels différents. Alors pourquoi?
Alors déjà, le Brexit.
Voilà. C'est vrai.
Parce que Alex de Stolen Body est en Angleterre, donc déjà, de toute façon, il est sur un autre monde. Et puis après, on voulait avoir une diffusion vraiment française, donc on a cherché un label français, ce qui nous permettait d'avoir plus de visibilité. Et puis, puis Greg de Exage nous a répondu presque le même jour, je crois.
Le même jour que...
En fait, on a sollicité pas mal de labels et je crois que le même jour, ils ont dit oui tous les deux. Donc voilà, on a fait bon bah. Le CEP pour la France, Greg pour le reste de l'Europe et Alex sur son île. Voilà.
Choix royal, donc. Très bien. Alors, cet album, vous avez peut-être envie d'en parler, vous sens que je vous pose des questions. On nous écoute, là, les auditeurs, les auditrices, ils ont peut-être envie d'en savoir un petit peu plus sur votre trio, sur comment vous êtes rencontrés et sur ce que vous avez envie de dire aussi sur ce troisième album.
Alors, est-ce qu'on a 2 heures devant nous?
Vous avez un quart d'heure.
Un quart d'heure. Alors, est-ce qu'on...
Par quoi commencer, c'est
par
ça
quoi
le...
commencer? La rencontre, je pense qu'en quelques mots, c'est juste... On s'est rencontrés un peu sur manière poétique dans le fil de la vie, on va dire ça comme ça, dans le ruisseau de la vie.
On s'est rencontrés par petites annonces.
Par petites annonces, si... ouais. Non mais c'est vrai.
Sur un site musical donc.
Voilà. Non, avec Hugo on s'est rencontrés à la fac du Mirail à Toulouse, ouais. Et vraiment par hasard sur la pelouse, comme un cliché de groupe en fait, qui se rencontre sur les bancs de la fac, et on a commencé à faire de la musique ensemble comme ça. Et ça a matché, ça a duré des années jusqu'à arriver aujourd'hui à Carcara. Et Max, à la batterie, bah, c'est tout bête, on cherchait un batteur, on a fait une annonce sur un forum, et il a répondu, et c'était bon. Voilà.
À l'ancienne.
Ah, vraiment à l'ancienne, ouais, complètement.
Voilà.
Complètement.
Et puis, bah, je ne sais pas quoi rajouter, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, du coup, on a fait nos deux premiers albums ensemble, et puis c'était une longue route pour arriver jusque-là, parce qu'en plus, il y a eu le Covid en plein milieu, donc en fait, ça fait... Cette formation, je dirais, à 5 ans, à peu près, 5-6
ouais,
ans.
À peu près 4-5 ans, je pense.
Vous avez sorti le premier album en 2019, donc ça fait 5 ans.
Ça fait 5 ans, ouais. Voilà. Ça passe vite.
Ouais. Mais oui, on se connaît depuis 2018, donc ouais, ça fait 5-6 ans. Et donc du coup, il y a eu bah, deux belles années de Covid, donc deux belles années de galère. D'où le Hollies Dust, peut-être, sûrement, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'années de Covid dans ce nouvel album, je pense. Et on a réussi à sortir les deux premiers albums juste avant et pendant la pandémie. Et après, du coup, ça nous a permis, quand la pandémie était plus ou moins finie, de pouvoir tourner et jouer ces deux premiers albums en live. Et je pense qu'on a déjà pris le temps pour tourner et du coup pour créer le Hollies Dust, le troisième album. Et c'est pour ça qu'on a mis 4 ans pour faire ça.
Ans, allez, on va dire 6, on va être un peu large. Vous avez quand même sorti 3 albums, vous avez fait des centaines de concerts en France, en Europe, des chouettes concerts et pas que des premières parties, loin de là. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années?
1 million de lives.
Je pensais que tu allais dire 1 million d'euros. Là, ça va être un peu difficile, peut-être. Quoique.
Non, je dirais
3 albums de plus.
Oui, 3 albums de plus, des lives sur tous les continents, parce qu'il y a des continents plus accessibles que d'autres. Ouais, je dirais jouer partout, c'est de se diffuser, rencontrer plein de gens de tous les continents et ouais, que ça dure et que ça continue encore et encore.
Quelles sont les trois choses essentielles pour réussir une tournée pour vous ?
De l'acharnement en un.
Ouais,
bah, aussi peut-être du réseau tout simplement. Hein.
Ouais.
Ouais,
c'est vrai qu'il y a de ça. Ouais.
Et de
ça.
La passion aussi. Ouais. Parce que ouais, pour faire ça, faut aimer ce qu'on fait aussi, mine de rien, forcément.
Ouais, acharnement, réseau et passion. Je pense que oui, bah,
c'est travail,
une partie d'acharnement.
L'acharnement, pour moi, c'était vraiment le travail.
Ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais c'est un gros plus sur l'acharnement, oui, je pense.
Ouais, parce...
Quand tu l'as dit, c'est un travail et tu lâches rien à la fois. Donc c'est un peu plus que...
Oui, complètement. Il faut vraiment pas lâcher, surtout au début où on n'a pas... Où surtout les groupes n'ont pas le luxe d'avoir des tourneurs avec eux. Donc il faut construire soi-même, en fait, sa tournée. Et si on veut s'exporter, bah, il faut se constituer ce réseau-là à l'étranger. Et il faut mailer, il faut passer des coups de fil, il faut vraiment s'acharner parce qu'il ne faut pas se leurrer. Au début, on fait partie juste d'une pléthore de groupes. On est juste une petite goutte, donc on est un peu personne aussi, donc il faut vraiment faire ses preuves, il faut vraiment s'acharner, y aller pour dire ok, on va vraiment faire cette tournée, il faut faire le plus de dates possible. Et...
Il faut y croire.
Hein. Il faut y croire.
Il faut y croire à fond, parce que c'est pas tous les jours facile, et que des fois, forcément, il y a des hauts, des bas, et du coup, même dans les bas, faut y croire aussi, et tout donner pour ça.
Et à propos de tournée, donc vous en avez entamé une belle quand même. Alors il y a des premières parties de Slift début avril. Vous allez notamment avec à Paris, à Zurich, au Luxembourg. Et vous faites aussi Dijon, vous faites aussi Lille, Bruxelles, Vannes. Enfin, on ne vous arrête plus en fait en avril. C'est parti.
Bah oui, quand on part en tournée, on essaie de vraiment faire le plus de dates possible. Si on pouvait avoir une date vraiment par soir, dimanche compris, on le ferait. Je pense vraiment. Et le but, c'est d'aller le plus loin à chaque fois. C'est un peu presque le challenge de se dire, on a trouvé une date, elle est à Hambourg. Qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde, on se dit, on va construire une tournée pour aller jusqu'à Hambourg, en fait. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc on rajoute des dates. Et nous, on adore faire ça parce que ça permet de nous garder vraiment dans le rythme. Un peu. On est épuisé, mais on est dans le rythme. Donc en fait, il n'y a pas de pause. On enchaîne les dates tous les soirs. Et à chaque fois, c'est vraiment magique. On adore. Quoi.
Épuisé comme ce matin, vous avez finalement dormi que 3-4 heures depuis le concert d'hier. Mais vous êtes là, acharné.
Voilà, bah ça fait partie du truc. Et c'était un plaisir. Hein, donc voilà.
Ouais, on est un peu comme en tournée. Bah, en tournée, c'est comme ça. On dort 3-4 heures, c'est chouette déjà. 3-4 heures et on enchaîne, on reprend le camion et on part du coup dans une autre ville et c'est reparti. Etc.
Et c'est éphémère à chaque fois, c'est-à-dire que tu te fais limite des meilleurs copains la veille et le lendemain, tu redécouvres des gens, redécouvres une organisation, redécouvres un lieu et un public et tout ça. Et donc du coup, et c'est ça la beauté de la chose aussi, c'est que tous les jours est un nouveau jour. Hein, tu vois, et voilà.
Camion aménagé ou camion hôtel ?
Ni l'un ni l'autre.
Généralement, c'est soit hôtel, soit c'est les gens qui organisent les lives, nous font dormir chez eux, chez des copains. Ça se fait beaucoup. Les gens
viennent dormir chez moi.
Il nous manque plus que des caméras et puis c'est bon.
Mais les gens pensent beaucoup que ça passe beaucoup par les hôtels avec les groupes, et en fait pas tant que ça. Il y a des hôtels bien sûr, mais c'est souvent des orgas qui en fait se font dormir les gens chez eux parce qu'ils ont soit un grand appart, une maison, ça se fait beaucoup. En maison, ils se disent qu'est-ce que vous préférez. Soit en gros vous venez dormir chez nous et on se fait un after et on discute et on papote, soit un hôtel et des fois on prend l'appart parce que ça permet de rencontrer aussi vraiment les gens, de faire une soirée, de pouvoir discuter un peu de la musique, de plein d'autres choses, de la vie.
Moi, je préfère autant ça qu'un hôtel. Hein,
je préfère ça à un hôtel. Bon, après, quand on est trop épuisé, on demande un hôtel quand même.
Mais il doit y avoir de belles rencontres aussi. Vous voulez parler d'une rencontre en particulier que vous avez pu faire
Il y en a tellement.
Ah, il y en a tellement.
Roger et Mathilde.
Allez, Roger et Mathilde. vas-y, je te laisse raconter cette. Alors, on va parler de Roger et Mathilde. On vous fait un gros bisou, Roger et Mathilde.
Big up à vous.
Vraiment, vraiment la famille, comme on dit. Alors, ça faisait partie de notre première tournée de Crystal Gazer. C'était du coup en 2019. Et on avait joué à Bordeaux avec une orga qui s'appelle Sonatic, qui existe toujours, qui fait encore des dates à Bordeaux dans les caves bordelaises, les anciennes caves à vin bordelaises. D'ailleurs, si les Bordelais qui nous écoutent, allez voir Sonatic, c'est vraiment chouette. Et on a fait ce live-là, et tout de suite, ça a matché entre nous humainement. on est tombés presque amoureux les uns des autres. C'était vraiment très très
là, on a passé deux jours ensemble, on a l'impression que ça faisait un an, on s'est quitté comme si on était une grande famille, alors en deux jours.
Et on a passé notre temps à rigoler, on n'en pouvait plus, à chaque fois qu'on se voit, on rit en fait, vraiment, on passe notre temps à rigoler, à dire des bêtises, et vraiment c'était incroyable. Et c'est des gens avec qui on a gardé contact, mais depuis 2019, ils étaient là au bikini d'ailleurs. Et c'est vraiment des gens où vraiment ça, on connecte tout de suite et on se dit ok, on se voit un soir et on se dit en fait on sera amis pour la vie, et on le sait, et c'est magique, c'est bizarre à expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, et c'est vraiment partagé un peu comme une amitié, deux groupes d'amis qui tombent amoureux en fait les uns des autres.
C'est une amitié évidente, quoi.
Voilà, exactement, une amitié
comme
évidente,
comme si on se connaissait déjà depuis avant. Et...
bon, mais big up à eux.
big up à eux, ouais.
Et oui, aussi, on a oublié de dire, on organise un festival, un nouveau festival de rock psyché qui s'appelle le Sungaze Festival, qui va se faire le 23, 24 et 25 août. Ça se situe pile entre Toulouse et Bordeaux, avec une programmation vraiment cool. Il y a des groupes anglais, il y a des groupes néerlandais, il y a des groupes français. Il y a des belles têtes d'affiche, et on s'est dit que c'était un projet cool parce que, avec tous les groupes qu'on a rencontrés en fait en tournée, on s'est dit que ça serait juste génial de les ramener par chez nous, en fait. Et quoi, on a ramené parmi tant d'autres, on a Cosmic Dead d'Écosse, on a Cloud Surfer de Hollande, on a Codex Serafini d'Angleterre aussi. Enfin, on s'est dit qu'on allait commencer cette nouvelle aventure-là, de créer un festival de rock psyché. Donc le Sungaze Festival, le 23, 24 et 25 août, à côté de Nérac, entre Toulouse et Bordeaux.
Et où on prend les places?
En ligne, Hello Asso. Il y a un Hello Asso en ligne, sinon sur place. Mais on conseille aux gens de prendre vraiment en ligne parce qu'on a une jauge limitée. On limite la jauge pour l'instant. Donc on conseille aux gens de prendre plutôt en ligne.
Super. On va terminer là avec vous. Donc on rappelle, votre album vient de sortir. Il s'appelle All Is Dust, donc du groupe Kerkara. Donc à écouter sur toutes les plateformes et à acheter. Peut-être quand même, on peut encore acheter de la musique. Hein. Donc vous avez un site.
Vinyle, Bandcamp, et après sur les sites des labels.
Cassette,
ouais. Ça revient.
Ouais, on adore, rien que pour l'objet.
Oui,
donc, l'objet, moi,
oui,
je
parce
trouve
que
ça trop mignon.
Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a un lecteur cassette de nos jours, mais en tout cas, l'objet est sympa. Il y a pas mal de groupes qui reviennent sur cet objet.
Cassette, et il y a pas mal de gens qui reviennent, en fait, parce qu'ils disent que souvent, maintenant, aujourd'hui, les gens achètent des supports physique pour la musique, souvent pour l'objet. Mmh. C'est pour ça que aussi le vinyle est jamais mort, parce qu'il y a toujours l'objet et la pochette. Et pour la cassette, c'est un peu pareil. Et il y a des gens qui se font vraiment des rigs pour lire des cassettes, pour avoir un son vraiment hyper, hyper qualitatif. Et nous, quand on fait des cassettes, ça part assez vite. On fait pas des éditions énormes, mais ça part assez vite parce qu'il y a vraiment des diggers de cassettes, et vraiment des fans de cassettes qui tout de suite se font leur collection, etc. Donc on adore et on continuera toujours à faire des cassettes. Et sinon, oui, vinyle, streaming, bien sûr.
Très bien, et bien c'était Kerkara sur Radio Néo. On vous suit donc en tournée tout le mois d'avril, et donc de toute façon sur tous les réseaux, vous annoncez vos dates, donc on peut vous suivre partout. Et on fera comme vos amis, comment ils s'appelaient, Mathilde
Desroger.
Voilà, on fera comme Mathilde Desroger, on vous suivra partout et on vous invitera partout. Bonne journée à tous,
merci,
à tous.
Scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
Je tiens même pas le volant.
Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.